Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Irina Teodorescu. Bonjour Irina.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Irina Teodorescu, vous êtes écrivain.
Écrivaine.
Et vous êtes née en Roumanie.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de vous?
Ça va comme ça, mais ça me paraît déjà pas mal.
Écrivaine et roumaine.
Et française.
Et française. Irina Teodorescu, vous avez choisi comme journée particulière le 22 décembre 1989. Ce jour-là, après plusieurs jours de manifestations et de répression, la dictature de Ceaușescu prenait fin.
Toute la journée, la capitale roumaine a été le théâtre de ces scènes inimaginables il y a encore quelques heures. Une foule en liesse parce que, en se soulevant, le peuple roumain a mis fin en quelques heures à 24 ans de terreur et de souffrance. La fin du régime Ceaușescu en Roumanie, c'est un événement historique que nous vous faisons vivre depuis ce matin.
L'histoire à nouveau là dans ces images que nous venons juste de recevoir d'une Libération en marche. Voici la première preuve par l'image que l'armée s'est bien ralliée avec ses manifestants par dizaines sur un tank. Dans la principale artère du Bucarest, la rue Maghereau, ils sont des centaines de milliers. Ce matin, alors que les étudiants avaient appelé à manifester et qu'ils ont été relayés dans la journée par les ouvriers en grève et l'ensemble de la population, ils crient « Ne détruisons pas les preuves du crime ». Autrement dit, n'abîmons pas ce qu'a fait Ceaușescu, il faut que ces preuves témoignent pour l'histoire. Nous sommes ici au centre de Bucarest, sur la place de la République, devant l'ancien palais royal devenu siège du parti. Les manifestants ont investi le palais et ils jettent par le balcon les œuvres complètes de Ceaușescu.
Irina Teodorescu, vous souriez quand vous entendez qu'on jetait les œuvres complètes de Nicolae Ceaușescu.
Ouais, c'était des gros pavés, alors j'imagine qu'il valait mieux qu'il n'y ait personne en dessous, parce que sinon ça devait faire mal de se prendre ça sur la tête. Je sais pas, j'imagine une pluie de gros pavés de livres et ça m'amuse.
Vous vous souvenez comme ça de ce son, de cette foule, de ces cris, c'est ça qui est frappant dans toutes les archives autour de décembre 89 en Roumanie?
Pas trop, non. Pour moi, c'est une découverte. Je ne sais pas du tout ce qu'on disait en France à l'époque, ou même à tout l'extérieur de la Roumanie, mais pire que ça, je ne sais même pas ce qu'on disait en Roumanie à la radio. D'ailleurs, on ne disait pas grand-chose tout de suite. Parce que pour le 22 décembre, la radio et la télévision n'étaient pas encore libérées. On a dit libérées après, mais donc elles n'étaient pas encore tout à fait ouvertes à un discours libre. Puis moi, en plus, je n'étais pas tout à fait connectée.
Vous étiez où alors? Vous aviez quel âge déjà en 1989, Irina Teodorescu?
Alors, j'avais 10 ans. Et il se trouve que j'étais au ski,
oui,
dans une colonie de vacances avec un club de ski. Et j'étais loin, loin, loin de toute considération de politique, de changement de société. J'étais vraiment absolument pas intéressée par ce qui se passait.
Vous étiez intéressée par le ski, la colonie, et exactement, votre copine, votre amie.
Exactement. Et j'avais 10 ans. Donc, est-ce qu'à 10 ans, on peut vraiment être intéressé par ce genre de changement de l'histoire avec un grand H?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Irina Teodorescu, ce 22 décembre 1989, pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a interrompu mes vacances.
Ouais.
J'avais encore 2 jours, je crois, de colonie du ski. J'étais extrêmement contente, extrêmement heureuse d'être là-bas. Il y avait bien de la neige. Et soudain, je sais pas, on descend à un moment, parce qu'on logeait dans un refuge en haut de la montagne, une montagne des Carpates. Et on descend, parce qu'on faisait que ça toute la journée, on descendait, on remontait, on descendait, on remontait. Et là, en bas, bah, y a nos parents qui étaient venus nous chercher. Surprise des surprises, parce que, enfin, négatif pour le coup, vraiment.
Qu'est-ce qu'ils font là?
Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Alors qu'on a encore 2 jours, et vraiment, c'est la dernière chose qu'on veut voir quand on est en coloc et qu'on
c'est
est content. C'est ses parents. Voilà.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Votre père vous tire par le bras et vous colle dans la voiture. Il y a votre grand-père aussi qui est là, c'est ça, Irina Théodorescu?
Ouais. Je comprends qu'il se passe quelque chose d'important, de grave. Et que il fallait que je rentre. Enfin, en gros, ils étaient venus me sauver, quoi.
Ouais, vous comprenez, mais vous ne savez pas du tout ce qui est en train de se passer. On ne vous en dit pas plus.
Pas du tout. Alors, j'étais un peu au courant à cet âge-là déjà que le régime n'allait pas trop, que les adultes clairement n'étaient pas particulièrement contents du système dans lequel ils étaient un peu pris, voire prisonniers. Que il y avait des choses qu'il fallait pas que je répète à l'école, et ça c'était très très étrange. Enfin, j'avais cette sensation, je comprenais pas. Je sais que je n'arrivais pas à démêler dans ma tête de comprendre pourquoi il fallait pas que je parle de fait que, par exemple, mes grands-parents écoutaient une radio qui s'appelait l'Europe Libre. Donc, que tout le monde écoutait, c'était une radio, c'était la radio dissidente. C'était très écouté et il fallait surtout pas que j'en parle. Et ça, c'est très, très important, on me le répétait, mais peut-être tous les matins quand je partais à l'école.
Alors, donc, ce 22 décembre 1989, vous comprenez qu'on vient vous chercher, vous comprenez, Irina Théodorescu, qu'il se passe quelque chose d'important, quelque chose d'extraordinaire, peut-être, ou pas encore?
Je vois bien qu'il y a quelque chose. En fait, il y a une espèce de sentiment de peur mélangé à un enthousiasme incroyable. J'essaie de décrire ça dans le livre, mais en réalité, dans mes souvenirs, c'est très très flou. C'est vraiment une sensation. C'est cette sensation d'enfance, de se dire ok, il se passe quelque chose là. Vous savez, quand on est enfant et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience de vie, on n'est pas très surpris quand il se passe des choses. En gros, il se passe tout le temps des choses, en fait, quand on est petit. Donc là, bon, ok, il se passe un truc visiblement un peu encore mieux que d'habitude, encore plus que d'habitude, plus fort. Et donc, je vois mon père qui vient de me chercher, qui fasse toute la route jusqu'à la montagne. Je sais pas, c'est 300 kilomètres, mais alors, c'est pas 300 kilomètres d'autoroute, c'est 300 kilomètres de petite route qui prend beaucoup de temps, et avec mon grand-père. Très, très bizarre. Et là, je me dis, ok, il y a cette sensation d'un truc incroyable, quoi.
Alors, en 1989, en France, Irina Théodorescu, les Rita Mitsouko nous faisaient danser sur un sujet tragique.
C'est la pluie, ok, il est beau.
Le 22 décembre 1989, Irina Teodorescu, donc vous aviez 10 ans, vous ne saviez pas que vous étiez en train de vivre une journée historique qui allait mettre fin au régime communiste de Ceausescu, vous faites nom de la tête. Un petit récapitulatif, Irina, de cette journée folle du 22 décembre.
9h32, l'AFP annonce que pour la deuxième fois en 24 heures, la foule converge vers le centre-ville malgré la répression.
9h59, l'agence soviétique TASS décrit des scènes de fraternisation entre des soldats et les manifestants. Les gens ont découpé le sigle du Parti communiste roumain, imprimé depuis 40 ans, au centre du drapeau national.
11h, les premières rumeurs sur une fuite de Ceausescu circulent devant l'immeuble de la télévision. On annonce le suicide du ministre de la Défense, Vassile Mihnea.
11h29, c'est confirmé, l'armée se retire, la place de la République et tout le centre de Bucarest sont noirs de monde.
11h43, les studios de la télévision roumaine sont envahis. Dans le même temps, on annonce la création d'un front du salut de la patrie, dirigé par un groupe d'intellectuels, d'artistes et d'ouvriers. Ordre est alors donné d'arrêter Ceausescu, sa femme et son fils, qui sont en fuite.
12h58, un bulletin de l'AFP annonce que les frontières de la Roumanie sont ouvertes. Les premiers journalistes étrangers bloqués depuis une semaine peuvent enfin rentrer dans le pays.
Début de l'après-midi à Bucarest, l'euphorie gagne tout le peuple roumain. Juché sur les chars, la foule est en liesse dans le centre de la capitale.
Et toujours s'écrivez-vous, Irina Teodorescu. Donc, votre père et votre grand-père sont venus vous chercher. Vous êtes obligé de quitter votre bonne copine. C'est la fin des vacances et on vous colle dans la voiture, c'est ça ?
On me colle dans la voiture. On me dit aussi de rester couché parce que y a des tirs.
Sur la banquette arrière de la voiture ?
Voilà, sur la banquette arrière. Et on me dit qu'il ne faut pas que je regarde, qu'il faut que je reste couchée parce que je pourrais éventuellement me prendre une balle. Alors ça, c'est vraiment la grande surprise. J'avais jamais jusque-là été menacée de me prendre une balle. Donc évidemment, je suis extrêmement curieuse.
Curieuse ou vous avez peur ? Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas peur. Ça vous amusait tout ça ?
Quelque part, oui. Non, je n'ai pas un souvenir de peur parce que c'était tellement soudain. On m'avait pas dit que je pourrais avoir peur un jour de des gens qui tirent des balles. Ça rentrait pas dans ma réalité à l'époque, donc j'avais pas peur. Je savais pas ce que c'était, mais évidemment mon grand-père et mon père y insistaient. Mais j'étais curieuse, je voulais quand même voir qu'est-ce qui pouvait bien se passer de si bizarre.
Vous étiez dans les monts Apouseni, c'est ça, et vous avez traversé la Roumanie pour revenir à Bucarest. Il y a une seule route qui traverse plein de villages. Et de temps en temps, vous vous releviez de la banquette arrière pour regarder ce qui se passait, Irina Teodorescu ?
Oui. Il y avait une espèce d'euphorie dans la rue. Les gens, même dans les villages, les gens, ils sortaient. Enfin, ils étaient dehors dans la rue. Alors ça, c'était pas normal. Et je me rappelle, parce qu'au départ, vous avez passé cette archive où ils disent que les gens sont entrés dans le musée pour jeter dehors l'œuvre de Ceausescu. Les gens, ils avaient envahi les librairies où il y avait beaucoup d'œuvres de Ceausescu. Et ils faisaient des feux avec ça. Et ça, c'était vraiment... ils faisaient des feux de joie. C'était une fête. C'était bizarrement une fête.
Avec des cris. Mais
tout... quand même dans la peur aussi et dans une espèce de rage accumulée pendant des années et des années de dictature.
Et pendant le voyage, votre père et votre grand-père ne vous expliquent toujours pas ce qui est en train de se passer. Vous ne savez toujours pas.
Mais je pense qu'eux-mêmes, ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qui se passe. Ils ne savent pas trop. Et ça, c'est quelque chose qui m'emporte beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est toujours comme ça que les révolutions arrivent, qu'on ne les voit pas trop venir. Et que soudain, on est pris dans une espèce de mouvement de masse. Même si on n'est pas dans la masse, on est quand même pris dedans. Et je crois que c'est important de l'étudier, ce phénomène. En tout cas, moi, il m'intéresse pour cette, ce côté surprise, en fait. Et donc, je crois que mon père et mon grand-père ne savaient pas trop ce qui se passait. Alors, ils avaient peut-être accès à leur fameux Europe libre ou j'en sais rien. Ils avaient écouté des trucs, mais personne ne savait, en fait. Mais ni même les dictateurs, le couple maudit Ceausescu, ben, même eux n'étaient pas au courant.
Alors, pendant votre voyage de retour à Bucarest, vous êtes quand même arrêté dans un hôtel. Irina Teodorescu, il y avait une télévision. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs de ce que vous avez vu à la télévision? On est toujours le 22 décembre 1989.
Alors moi, j'ai pas de souvenir de ce que j'ai vu, mais je sais que j'ai le souvenir de personnes qui criaient non, non, il faut pas le laisser s'enfuir, des cris révoltés un peu. Beaucoup d'hommes, je sais pas pourquoi.
C'est les images que vous avez de voilà. Ce que vous aviez vu à la télé.
Ouais, et en fait, maintenant, je sais et j'ai su assez rapidement que ça correspondait au moment où Ceausescu et sa femme ont, en fait, on a dit qu'ils ont essayé de s'enfuir, mais c'était pas vraiment le cas. Ils essayaient pas de s'enfuir. Ils essayaient de rejoindre un peu un endroit d'où ils voulaient s'organiser pour
mater la révolution.
Exactement.
Donc, vous faites la route, vous arrivez à Bucarest, vous sentez, là, vous sentez qu'on, une espèce d'inspiration comme ça, pétillante, vous sentez que ça bouge, votre mère est comment quand vous arrivez à Bucarest, comment ça se passe?
Alors, ma mère, déjà, elle est soulagée de me voir, parce que c'était quand même une énorme confusion. Vraiment, pour les gens, ils étaient surpris, agréablement surpris, très enthousiastes, mais aussi très, un peu hagard, quoi. Donc, voilà, on savait pas ce qui se passait. Et donc, ma mère, elle était contente d'avoir sa fille qui est rentrée. Et on disait à la radio qu'il y avait des terroristes qui avaient été parachutés pile sur la montagne où moi j'étais. Et même encore aujourd'hui, après avoir fait des recherches, je ne sais pas s'il y a vraiment eu des terroristes. Et personne n'arrive à me le dire. Vraiment, c'est quand même assez incroyable, comme si il y avait tout un pan de l'histoire qui avait été perdu. Comme ça, on ne sait pas si vraiment. Donc, on disait que c'était des terroristes qui étaient des tireurs d'élite entraînés par Kadhafi, puisque c'était un ami de Ceausescu. Enfin, ça c'est des informations que j'ai eues ultérieurement, enfin, très tard, même il y a pas très longtemps en réalité. Mais moi, je savais pas, et même ce terme terroriste, mais qu'est-ce que c'est? Je savais pas ce que c'était. J'avais cette image des hommes habillés en noir dans des espèces de combinaisons serrées au corps. Et pour moi, c'était ça, des terroristes.
Alors, vos parents manifestent, vous voyez vos parents manifester. Et puis, les jours avancent, la révolution avance. Et il y a le 25 décembre 1989, oui. Un jour très important dans l'histoire de la Roumanie.
Un lieu inconnu, une pièce d'une terrible banalité en guise de tribunal. Le couple Ceausescu face à ses juges. Buté, arrogant, le dictateur déchu ne cesse de refuser toute légitimité à ses accusateurs. Je ne reconnais aucun tribunal, je ne reconnais que la Grande Assemblée nationale. Nous te jugeons d'après la constitution du pays. Ce n'est pas le moment de nous donner des leçons. Les lois, nous les connaissons mieux que toi, qui ne les a pas respectées. Une cinquantaine de minutes de séquences mises bout à bout, visiblement sans respect de la chronologie. Des juges invisibles, systématiquement des plans fixes coupent les scènes où les membres du tribunal pourraient être reconnus, accusateurs qui ne seront vus que partiellement. Elena Ceausescu ne répond pas, prostrée. Lui s'emballe parfois, retrouve les gestes du tribun. Je ne reconnais pas votre nouvel organe du pouvoir. Personne ne le reconnaît. C'est pour ça que le peuple lutte et luttera toujours pour éliminer les traîtres qui, avec l'aide de l'étranger, ont organisé ce coup d'État. Procès sommaire, où le défenseur va donner des arguments à l'accusation. Procès bâclé, à l'image de ce montage haché et tronqué. Lecture de la sentence. À l'unanimité des voix, le tribunal militaire extraordinaire condamne les accusés à la confiscation des biens et à la peine de mort.
Donc le 25 décembre 1989, Irina Teodorescu, juste après ce procès, Vous avez vu ces images de ces corps par terre? Nous, on les a vus ici, beaucoup. C'est des images qui nous ont frappées. Vous avez en tête ces images de leurs deux corps par terre?
J'ai en tête ces images, mais c'est pas tout de suite que je les ai vues. J'ai pas vu ni leur exécution. Je pense qu'on a même montré leur exécution à la télé. Et cette image des corps morts, je crois pas qu'on me l'a montré tout de suite.
Mais on vous a expliqué qu'ils étaient morts à la maison? Est-ce que vous avez vu vos parents se réjouir?
Alors, c'est oui, j'ai vu mes parents se réjouir et c'est marrant parce que j'étais pas trop dans les discussions. Déjà, il n'y avait pas cette habitude de parler politique ou changement de société ou à la maison, même entre adultes, les gens ils parlaient pas trop de ça parce que on savait pas trop qui écouter à quel moment et surtout pas devant les enfants parce que les enfants
peuvent
après
répéter.
Il fallait leur dire de se taire et c'était compliqué donc pas plus trois jours plus tard que juste les trois avant enfin la semaine d'avant parce que enfin on n'a pas changé si vite les habitudes donc je n'ai pas de souvenir de mes parents en train de commenter quoi que ce soit mais je crois qu'ils étaient contents. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis contente encore aujourd'hui.
De la mort des Ceausescu.
Mais je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux que ça. Après, je sais qu'il y a eu tout un tas de... Enfin, le juge, je crois qu'il s'est suicidé. Et il y a eu des problèmes avec ce peloton d'exécution qui était composé de jeunes hommes qui étaient en service militaire. Et, enfin, voilà, c'était un peu dur. Enfin, très dur. Mais... vraiment, encore aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux.
Alors, je vais vous faire écouter une archive avec des réactions de Roumains après l'exécution des Ceausescu. C'est une archive donc du 25 décembre 1989. Mmh. Vous aussi, vous vouliez que vous vous rappelez de ce sentiment de joie et la volonté qu'il souffre. C'est des choses qui vous traversent, cette haine persistante.
Non, et c'est pour ça que je dis que je pense que c'était pour le mieux finalement qu'ils ont organisé cette exécution un peu parce que je sais que ma mère m'a dit, mais beaucoup plus tard. Elle m'a dit, mais je crois que sinon, ça aurait pu être bien pire. Parce que vraiment, il y avait une haine terrible. Et c'est très, très bizarre parce qu'il était vraiment fou.
Et, Nicolas Ceausescu.
Ouais, et elle aussi, enfin, le couple était fou. Et il y a eu un documentaire qui est sorti, qui a été monté qu'à partir d'archives personnelles de ce couple, qui se filmait en permanence. Et ils vivaient dans un espèce de paradis incroyable. Et je pense que cette haine du peuple envers ce couple de dictateurs venait de cette totale coupure. Comme si on n'était pas du tout du même monde. Quoi. Mais eux, ils avaient quand même une influence sur le reste de la population. Donc, et non pas l'inverse. Et en fait, les gens, ils voulaient juste rétablir un équilibre. Et la violence avait été tellement grande avant qu'il fallait une grande violence en échange pour juste établir un équilibre.
Mais vous, cette haine des Ceausescu, vous l'avez, vous la ressentez?
Non.
Aujourd'hui, Rinata
Dorespo? Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non. Non, mais encore une fois, j'avais 10 ans, donc moi, j'ai pas vraiment souffert directement. En fait, j'ai plus une haine de ce qui s'est passé après, finalement. Enfin, pas de ce qui s'est passé, mais l'ambiance qui est arrivée et de la conception du monde qui nous a été un peu apportée.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised.
La révolution ne doit pas être télévisuelle, Gilles Scott-Heron, Irina Teodorescu. Il faut dire et redire l'importance de la télévision dans la révolution roumaine. C'est la première révolution qu'on a vue à la télévision. Et vous, vous vous souvenez de la prise de la télévision, c'est ça, Irina?
Oui, je me souviens de cette... En fait, ils ont pris la télévision comme... C'est très très bizarre, c'est comme on a pris la Bastille en 1789 en France. Et en fait, c'est à ce moment-là, je me souviens, j'ai réalisé ce que c'était la télévision. Parce que jusque-là, c'était 3 heures par jour, on nous racontait des bobards sur comment on va tellement bien en Roumanie communiste. Et de temps en temps, il y avait un film. Et puis ça s'est limité à ça. Et d'un coup, là, je me dis, mais c'est un endroit où... D'où on peut s'adresser à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, mais vraiment leur dire quelque chose.
Jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de l'écrivaine Irina Teodorescu. Donc 22 décembre 1989, c'est la fin du régime Ceausescu. Vous avez 10 ans. Vous vous souvenez de l'espoir, de la confusion, de la lumière, de quelque chose de très lumineux comme ça?
Oui.
Et d'une lumière éblouissante?
Oui, j'ai parlé d'éblouissement parce que c'était vraiment très très fort. Très très fort, vraiment comme un éblouissement. C'est très lumineux, on a envie d'y aller, mais c'est très fort aussi.
C'est très fort aussi, et pourtant quelques semaines plus tard, on ne parlait déjà plus de révolution, mais on parlait de coup d'État. Et c'est comme si on avait volé quelque chose aux Roumains. Vous vous rappelez de cette déception de vos parents,
Oui, alors ce qui s'est passé chez moi, dans ma famille, entre mes parents, oui. Je trouve que mon père a commencé à parler de coup d'État et ma mère, elle ne voulait pas l'entendre parler. Elle ne voulait pas, elle disait que c'était quand même une révolution. Et sur le moment, déjà j'étais très très surprise de voir un désaccord politique entre mes parents. C'était vraiment la première fois que ça arrivait. Et je pensais que mon père avait raison. Peut-être pas tout de suite, mais même plus tard, j'ai pensé pendant longtemps que mon père avait raison, parce que c'est ce qu'on a dit, que oui, c'était un coup d'État. Et en fait, je me rends compte maintenant que c'est ma mère qui avait raison. Enfin, maintenant, depuis quelques temps.
Que c'était une révolution.
C'était les deux. Et elle voulait pas, c'est pas qu'elle voulait pas admettre que c'était un coup d'État, mais elle disait que ça n'enlevait rien à la révolution. Mais que les deux ont eu lieu réellement, vraiment, et que c'est quand même très très dur d'enlever ça aux gens qui ont vécu ça.
D'enlever la lumière.
Ouais. Je me suis dit, mais je comprends pas comment, en gros, les gens qui ont pris le pouvoir après, vraiment, je suis encore perplexe à me dire, mais pourquoi faire ça, parce que c'était un discours, c'est le pouvoir du discours. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que ils ont eu besoin de faire ça? Ils auraient pu très bien dire, c'était les deux. Enfin, n'empêche qu'il y ait des gens qui sont morts, des gens qui ont vécu cette descente dans la rue complètement nouvelle. Et je me l'explique pas, mais il y a beaucoup de choses dans l'histoire en général que je ne m'explique pas.
Et sur cette histoire-là en particulier, en tout cas, Irina Teodorescu, en mai 90, Ion Iliescu est élu président de la République roumaine avec 85% des voix. Et Iliescu était donc un ancien membre du parti, un proche de Ceaușescu. Ouais. Et là, l'espoir fou a vraiment disparu, l'espoir de cette révolution. On a compris que l'armée, la nomenclatura et la securitate avaient pris le pouvoir sur le pays et en quelque sorte privatisé ce pays.
Ouais. C'est-à-dire, c'était pas. On n'a pas compris très très vite, puisqu'il y a quand même 85%, vous venez de dire, c'est
85%.
Ça des gens qui ont voté vraiment pour ce Iliescu. Donc, ils n'avaient pas compris et je pense que les gens, ils étaient encore dans la confusion.
Pourtant, quelques jours après l'élection, les Roumains sont redescendus en masse dans la rue pour protester contre l'élection de Ion Iliescu.
Ouais.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé les mineurs.
Ouais, il y avait des manifestations. Ça, je me rappelle, j'ai été aussi avec mon père. Et il me portait sur ses épaules.
Aux manifestations contre l'élection d'Iliescu?
Oui. Et les gens, ils sortaient les clés de leur poche et ils faisaient sonner les clés et ils disaient « ton heure a sonné, il faut partir ». Je me rappelle de ce truc-là, que mon père il me donnait ses clés et je les secouais comme ça pour faire ce son de sonnette. Et il y a eu toute une suite d'événements qui n'ont fait que nous conduire, nous, le peuple romain, mais je pense aussi tous les anciens peuples communistes, vers ce qui se passe aujourd'hui, une espèce de jungle libéraliste.
Mais d'abord, répression en 90.
Par les mineurs, qui eux aussi ont été manipulés
par le pouvoir.
En Roumanie, la démocratie du manche de pioche et de la barre de fer. Le pouvoir a déclenché depuis l'année dernière une véritable chasse à l'opposant dans toute la ville de Bucarest. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un étudiant ou un golan est interpellé et très souvent matraqué.
Bucarest, soumise à la loi des gueules noires. À l'appel du numéro 1 roumain Iliescu, des milliers de mineurs arrivés dès l'aube par wagons entiers des divers bassins du pays, bien décidés à en découdre. En quelques heures, ils vont nettoyer la place de l'université de toute contestation, saccager les sièges des partis d'opposition. En véritable supplétif de la police, toute la journée par petits groupes, ils sillonnent la ville, interpellent, vérifient les papiers. À l'occasion, tabassent à loisir tous ceux qui de près ou de loin ressemblent à un golan, ou dans le meilleur des cas, les remettent aux militaires. Journalistes et photographes sont également les cibles de la fureur des mineurs. Bilan de cette journée de terreur, 600 arrestations, des dizaines de blessés, dont le président de la Ligue des étudiants. Ils viennent s'ajouter aux 5 morts officiels et aux centaines de blessés des 2 derniers jours d'affrontement. Ce soir, les nervis du régime tiennent une ville étrangement désertée par la police. Renouant avec des méthodes bien connues, avec son appel à la contre-manifestation, Ion Iliescu n'a pas hésité devant les risques d'escalade de la violence et la chasse aux sorcières ne fait peut-être que commencer.
Irina Teodorescu, ça, vous vous en souvenez de la répression des mineurs?
Oui,
en 90,
oui, oui, je me souviens de ça, ouais. Mais oui, j'avais été aux manifestations et en plus, il y avait plein de discussions entre collègues à l'école. C'était, me rappelle d'un garçon de ma classe qui était contre toute cette nouvelle vague de révolution, on va dire. Et je me rappelle qu'on était assez divisés dans la classe.
Oui, parce que la parole s'est libérée. Ouais. Vous avez d'autres souvenirs de cette époque après la répression? Qu'est-ce qui s'est passé? De choses qui vous ont marqué?
Alors, il y a une chose, c'est qu'il y avait une énorme inflation. Ça, c'est très important pour les gens qui vivaient, enfin, pour les adultes qui étaient en train de vivre une espèce de dégringolade de leur...
crise économique sans précédent.
Ouais,
complètement. Qui n'était pas déjà formidable avant, mais là, c'est pire, il n'y a plus rien.
Ah non, mais c'était vraiment... Et je me rappelle qu'à un moment donné, je pense qu'on a fait ça dans d'autres pays de l'ancien bloc de l'Est, on a donné... ma mère est rentrée à la maison avec des bons d'achat, d'actions, dont des entreprises anciennement à l'État, appartenant à l'État. Et elle avait comme ça une liste d'entreprises où elle pouvait acheter des bons d'achat. Alors, des actions, pardon, avec ces bons d'achat. Et je me rappelle que mon père a dit « ça ne m'intéresse pas ». Et mon père a démissionné assez rapidement de son poste de chercheur. Il était chercheur et il a commencé à monter sa boîte. Voilà. Et ma mère, elle s'est dit, bon, peut-être que on pourrait faire quelque chose avec ces bons d'achat. Et elle m'en parle à moi. J'étais la seule interlocutrice, ce qu'elle avait sous la main. Et moi, je regarde la liste et je vois une usine de chocolat. Et là, je me dis, oh, bah, chocolat. Pour moi, des actions, ça voulait dire.
On va nous envoyer. De chocolat.
Exactement, exactement. Mais j'avais 10 ans. Hein. Et du coup, bah, peut-être 11 entre temps, mais c'était. Et j'ai dit à ma mère, mais. Investissons dans du chocolat, ça me paraît tout à fait un bon investissement. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que pendant 2 ans, on a eu une tablette de chocolat à la maison à Noël, ou en fin d'année, un truc comme ça. Puis après, cette fabrique a fermé.
Et oui, parce que c'est ça qui va se passer, c'est que le pays donc, va plonger encore plus dans la crise économique. Et quand je parlais tout à l'heure de la privatisation du pays par les anciens de la nomenclatura et par l'armée, c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est carrément la vente.
Vente. Aujourd'hui encore, c'est un pays de clientèle complètement corrompu qui fonctionne encore sur ces bases qui ont été mises en place après la Révolution, Irina Teodorescu.
Complètement. Alors ce qui est un peu triste quand même, c'est que ces clients sont quand même des gens riches d'autres pays. Enfin, les clients ne sont pas romains, les clients sont français, américains, canadiens, là pour une montagne avec des mineurs. C'est-à-dire que c'est venu de l'extérieur. Cette société de libéralisme et du client de vente, achat-vente, est venue de l'extérieur. On ne l'a pas inventé de toutes pièces là-bas. Et c'est ça que je trouve triste, qu'on n'a pas su le voir.
Alors il faudra attendre des dizaines, enfin plus de 15 ans, pour revoir un grand mouvement de contestation, le plus grand mouvement de contestation en Roumanie après les événements de 1989. Et c'était en 2013, de grandes manifestations justement pour protester contre l'exploitation d'une mine d'or par une société canadienne dans les monts Apuseni.
Aujourd'hui, il y a un projet fou. Une compagnie canadienne, la Gold Corporation, veut rouvrir la mine. Il faudra broyer la roche de ce massif, ainsi que 3 autres sommets autour de la commune pour extraire l'or. Les montagnes autour du village disparaîtront, le paysage sera dévasté. La compagnie doit exproprier à l'amiable les habitants situés sur l'emplacement de la future mine. Et pour ça, l'investisseur met les moyens. Il y a pourtant des irréductibles qui ne vendront pas et qui se battent contre le projet. Eugène David est le président de l'association Sauvons Rocha Montana.
Ces deux maisons ont été vendues. Elles vont disparaître. Si je vends, ma maison va disparaître. Cette montagne va disparaître. Avec Orla, avec la citadelle, avec Kirnikou. Cette zone soi-disant protégée va disparaître parce qu'elle se trouve entre 2 massifs. Regardez, elle se trouve au pied des montagnes. La vie va disparaître totalement.
L'Union européenne et des ONG ont alerté le gouvernement roumain sur une possible pollution au cyanure qui atteindra le Danube.
Irina Teodorescu, en 2013, quand ces manifestations commencent pour protéger cette montagne, vous êtes en France.
Oui.
Vous vivez en France, mais vous, quel regard vous portez sur cet événement?
Je m'en rappelle, quand j'ai vu, il y a eu plusieurs manifestations de suite. Et il y a une fois où les gens se sont réunis, ils ont fait une chaîne humaine autour de la maison de peuple. Donc c'est cette monstrueuse, mastodonte construction de Ceausescu. Voilà, ils se donnaient la main, ils ont fait le tour. Et j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui faisait le tour à vélo. Et de voir tous ces gens qui se donnaient la main pour sauver une montagne. Encore aujourd'hui, ça me donne des frissons. Et je me dis, mais en fait, c'est la montagne qui a réuni à nouveau le peuple dans la rue. Enfin, les gens se donnaient la main. Et je trouve ça tellement beau et tellement fort. Je me dis, mais on devrait plus souvent, même là, dans l'archive que vous venez de passer, ils disent, l'Union européenne a alerté le gouvernement romain sur un possible risque à la cyanure. Mais un possible risque, mais c'est même pas, il n'y a pas de possible risque. C'est une certitude de pollution à la cyanure, au cyanure. Et donc, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on édulcore à ce point-là nos discours dès qu'il s'agit de vie commune, en fait? Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ces manifestations, et ils ont gagné entre-temps. Donc ça a commencé en 2013, après un certain temps, parce que, en fait, les contrats étaient signés. Enfin, ils avaient vendu une montagne. Ça paraît un peu fou, mais il y a quelques temps, j'étais en Auvergne, et j'étais accompagnée par une personne qui, c'était lors d'un festival de littérature, donc c'était une personne qui s'occupait de l'organisation, et qui me dit, mais je regarde les montagnes, et je dis, ah, mais j'aimerais bien faire une randonnée. Elle me dit, mais ouais, mais tu sais, ça s'organise parce que, en fait, les montagnes, ça appartient à des gens. Les volcans d'Auvergne, là, qui sont tout doux, tout. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, waouh, mais quand est-ce qu'on a commencé à avoir des montagnes privatisées comme ça? Et je trouve ça beau, parce qu'il y a une espèce de retour du sens du bien collectif avec ces manifestations pour Rocchiamontana. Et c'est quand même une montagne qui est avec de l'or à l'intérieur. Donc.
Et ça vous donne de l'espoir pour la suite, Irina Teodorescu.
Oui, 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 pour la suite même du monde entier. Hein,
Pour une montagne, ouais. On puisse se battre pour une fleur, pour une rivière.
Exactement,
et pour l'homme.
Ça m'enchante. Quoi.
Qu'est-ce qu'un arbre représente pour vous?
Je ne sais pas ce que cela représente, mais c'est un des êtres. Et pour moi, c'est vraiment un être vivant, ce n'est pas un objet. Et c'est un des êtres les plus émouvants et les plus étranges qu'il nous soit donné de connaître. Qui est à la fois un symbole de tout ce que nous vivons, puisqu'il est à la fois attaché à la terre et en même temps dirigé vers le ciel, et qui est en même temps très très semblable à un être humain. Je veux dire que dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'être debout, il est tout à fait comparable à un être humain. Il a le même corps, les mêmes attaches et le même cerveau qu'un être humain. Je crois qu'on a tort de couper les arbres, on ne vit pas assez au milieu d'arbres. J'aimerais qu'on ait des arbres partout, jusque dans les maisons. Il y a des endroits au Mexique où les arbres poussent au milieu des maisons, et j'aimerais bien que ce soit ainsi. En Corvate, il y a des temples qui sont possédés par les arbres. Les arbres ont poussé au milieu d'eux et ont démoli la pierre. Je trouve ça assez extraordinaire, la force, la ténacité, la vertu de l'arbre elle-même. Je trouve ça merveilleux, étonnant.
Le Clésio, parlant des arbres, Irina Teodorescu, vous pensez qu'on peut construire un monde, un autre monde, avec les arbres, les forêts, les animaux et de la poésie, et de la littérature?
Moi, je pense surtout que le monde est déjà construit avec des arbres et de la nature et de la poésie et de la littérature, qu'il faudrait surtout arrêter de le casser et se reconnecter un peu à... Enfin, j'ai pas de propos mystiques ou même naturalistes, je sais pas comment on pourrait dire, mais je pense qu'on est un peu coupé dans nos sociétés archi développées, comme on les appelle. Et je pense que on perd beaucoup à se couper comme ça de la vie, tout simplement.
Zoé Varié sur France Inter.
Le 22 décembre 1989, Irina Teodorescu, c'est la fin donc de la dictature de Ceausescu. Quelques semaines auparavant, la chute du mur de Berlin marquait la fin de la guerre froide. Mais 89, c'est aussi l'année du massacre des étudiants chinois, place Tiananmen. Ça, vous aviez vu un peu ou pas du tout? La télévision l'avait montré?
Non.
Mais non, c'était avant. C'était avant, c'était au printemps. Donc vous n'avez pas pu le voir puisque la télévision a été libérée. Non, comme
ne
vous dites.
Parlez pas de ça.
Ne parlez pas, de,
pas
ça.
De ça.
En 89, le monde entier dansait sur la lambada.
Ah oui, c'est vrai. Je m'étais confectionné une jupette de lambada.
Donc vous voyez, ça arrivait jusqu'en Roumanie. Les jeunes filles en France pleuraient en écoutant Patrick Bruel chanter Casser la voix.
Ah ouais, mais ça.
Ça, vous n'en avez pas profité.
Non.
Et en Roumanie, comme dans tous les ex-pays de l'Est, Patricia Cass faisait un tabac.
Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand t'es pris dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi, je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi.
Irina Teodorescu, vous la connaissez par cœur, j'espère.
Ah oui, complètement. Et ce qui est drôle, c'est que je me rappelle exactement de comment j'écoutais cette chanson et comment je chantais par cœur des paroles que je ne comprenais absolument pas.
Ouais.
Je ne savais pas du tout de quoi elle parlait. C'est, je ne parlais pas français. Donc,
et vous la trouviez belle, non? Toute blonde Patricia, comme ça.
Oui. Et puis moderne, quoi. Enfin, ouais. Cheveux courts.
Ah, elle avait tout pour elle.
Puis française.
Alors, en 89, le grand cinéaste Sergio Leone disparaissait. Soderbergh remportait la Palme d'Or pour son film Sexe, mensonge et vidéo. Et Dustin Hoffman, lui, remportait l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Rain Man. Mais vous, Irina Teodorescu, en 89, c'est l'année où vous découvriez Crocodile Dundee.
T'as du feu, mec?
À une seconde. Viens, petit gars.
Et ton morlingue?
Mick, votre portefeuille, donnez-le-lui.
Pourquoi faire?
Il a un couteau, regardez.
Un couteau, ça. Ça, c'est un couteau, fils.
Cassons-nous.
C'est des gosses qui s'amusent. Ça va?
Ça va toujours quand je suis avec vous, Dandy. Oh, est-ce que ça sonne gnangnan? Vous me donnez l'impression que je suis Jane avec Tarzan dans une BD.
Jane avec Tarzan dans une BD. Vous riez bien aussi, là, Irina. Vous avez des souvenirs de ça. C'était votre premier film de l'Ouest?
Non, je crois pas. Il y avait tout ce système souterrain de cassettes vidéo qu'on regardait pas mal, mais j'ai le souvenir d'avoir été au cinéma, voir ce film avec une de mes copines. C'était un peu... ouais, c'est un peu Tarzan, quoi. Enfin, c'est ce mec qui est beau, qui est fort, qui a des bottes en crocodile. Chose que je n'avais jamais vue auparavant. Enfin, voilà, c'était découverte sur découverte. C'est assez réjouissant.
Alors, pour finir cette émission, on vous a réservé une surprise. Enfin, je ne sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas, c'est la voix du grand poète roumain, Gerasim Luca.
Ah.
Dont Gilles Deleuze disait que son bégaiement avait renouvelé la poésie.
La forêt pendue à un arbre cache l'arbre au pendu et le pendu dans l'arbre. Pendu à la plus haute branche, la forêt originelle tire sa langue originale de ses crimes sans initiale. Au cœur du mot arbre, la tête du mot branche tranchée. Tête perdue, cœur errant. Loin de tomber au pied du mot arbre, la tête du mot branche monte. La tête du mot branche monte à la tête du mot arbre et le barre. Le barre de la surface du mot terre, qui ivre de bois erre sans thé dans la tempête du mot vert sans tête. Aucune tête de mot ne tombe. Aucune tête, aucune tombe à l'ombre de l'arbre, sans ombre ni proie. Hache sans tête ni manche, planté dans le bois de l'orée. Le mot proie, sans queue ni tête, tue le mot roi en son âme et son corps, son piège et son ombre. Le mot orée au cœur du mot forêt, sans fin ni commencement.
Génial, Gerasim Luca, Irina Théodorescu.
Complètement. Je me demande pourquoi il n'y a pas plus de Gerasim Luca dans la vie. Pourquoi c'est pas ces gens comme ça qui sont présidents de la République. Enfin, vraiment. Je me dis qu'on serait dans un monde tellement meilleur.
Merci, Irina Théodorescu. Votre livre s'appelle « Ni poète, ni animal ». Deux mots sur ce titre.
Ni poète, ni animal, mais les deux à la fois.
Bravo. Alors, ce livre est publié aux éditions « Ni poète, ni animal » est publié aux éditions Flammarion. Merci, Irina Théodorescu, d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci, Zoé Varier.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes. Alina Véronique de Saint-Pastou, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et nous, on se retrouve dimanche prochain.